Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta bonté infinie envers nous. Merci de nous associer aussi à ton œuvre. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Mais c'est par ton esprit en nous, ta main agissante en nous, c'est cela qui nous rend capables d'agir, de parler, de dire selon ta volonté. Alors Seigneur, nous te prions vraiment encore en ce matin que tu puisses prendre le contrôle, comme tu l'as déjà si merveilleusement fait, la personne de Stéphane. Et nous voulons remettre ce temps de ta parole qui sera annoncée, que tu puisses là encore prendre toute la place qui t'est due. Je te prie afin que l'homme, la chair se taise et que par ton esprit tu te serves de moi et que ta parole, Seigneur, parle à nos cœurs et que nous soyons transformés pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc depuis quelques dimanches, nous avons commencé avec le pasteur qui a initié ce temps-là, savoir comment se comporter dans la maison de Dieu. Et là, on était dans ces épîtres de Timothée. Et là où Paul écrivait à Timothée afin qu'il puisse organiser l'Église et comprendre comment organiser cette Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, cette Église qui annonce la vérité. Et là, nous allons passer à la deuxième lettre de l'apôtre Paul. Et nous voulons juste lire ces deux versets et nous prendrons en considération, bien sûr, le chapitre entier, le premier chapitre de Timothée, chapitre 1. Mais je vais lire du verset 13 à 14. De Timothée, chapitre 1, verset 13 à 14. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. La version Semeur qui dit: Tu as entendu de moi des paroles saines, fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et dans l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Garde le bien précieux qui t'a été confié. Dans une prochaine fois, nous verrons le contenu de ce dépôt et de ce qu'il faut faire. Mais ce matin, nous voulons parler de loyauté. La loyauté du serviteur à qui on a confié un dépôt. Et cette seconde lettre à Timothée a un aspect particulier parce que c'est le dernier écrit de l'apôtre Paul en ce qui concerne tous ses écrits du Nouveau Testament. Et là, c'est comme son testament même. Son heure est arrivée. L'heure de partir, il sent que l'heure est proche, il est en prison. Et bientôt, il va devoir quitter sa tente, son corps. Mais cette lettre va nous révéler d'une manière assez spéciale les sentiments, à mon sens, hein, en la lisant, les plus profonds de l'apôtre. On va voir son amour, l'estime qu'il a pour l'œuvre de Dieu. On va voir aussi son combat pour la pérennité de la saine doctrine. Particulièrement aussi, on voit son attachement pour les croyants et d'une manière spéciale pour son fils dans la foi, qui est Timothée. Et cela, me semble, que ce sont des exemples, des enseignements pour nous, en ce qui nous concerne, dans notre rapport à l'Église. Dans notre rapport à l'Église, notre rapport à l'œuvre de Dieu, la communion fraternelle. Quel est l'intérêt pour nous dans le fait de passer le témoin à la génération suivante? On pourrait se poser plusieurs questions, hein. Quels sont les regards qu'on, quels sont, quel est le regard qu'on pose sur ce trésor qui nous a été confié? Est-ce qu'on l'apprécie à sa juste valeur? On peut se poser ces questions-là. Est-ce que mon cœur vraiment est attaché à ce trésor-là? Est-ce que mon cœur est attaché à ce don qui m'a été fait? Est-il, ce trésor-là, est-il pour moi source de motivation? Là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Mais voilà, toutes ces questions-là, et nous essaierons de, un peu, au fur et à mesure de les lever. Mais comme je l'ai dit, nous allons parler de ces qualités intrinsèques qui font un bon dépositaire, quelqu'un qui reçoit un bien. Quelles sont les qualités essentielles d'un serviteur loyal? Quelles sont les qualités essentielles d'un serviteur loyal? Alors, quelques définitions pour qu'on se comprenne, hein. On se dit un dépôt. Le dépôt, c'est un bien précieux. D'accord? Vous allez à la banque, vous avez une grosse quantité d'argent, vous allez à la banque des dépôts, vous déposez cette somme. Donc la banque, elle est responsable de cette somme ou d'un objet de valeur. D'accord? Donc, au temps de Paul, il y a des personnes, on allait vers eux, on déposait un objet précieux et ils étaient en retour redevables. Ils avaient la responsabilité de ce qu'on leur avait confié. Et lorsque le temps était venu, ils devaient à leur tour remettre le bien qui leur était confié. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est là, avant d'aborder ces qualités essentielles, c'est voir qu'est-ce qui qualifie, et là dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui qualifie cette personne-là pour pouvoir recevoir un dépôt. Cette qualification, elle vient de la foi. Comment Dieu peut te donner le gage de sa parole? Eh bien, c'est parce que tu l'as reçu pour toi-même. Je crois que tu l'as reçu pour toi-même. Et il est intéressant de voir le processus chez Timothée. Et quand on regarde le processus chez Timothée, même si la lettre s'adresse à un responsable d'église, nous voyons que dans le cheminement de Timothée, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont mis en place pour que la foi de Timothée soit maintenant solide. Et dans les versets 3, dans les remerciements et dans les actions de grâce de l'apôtre, on voit que Dieu, que l'apôtre remercie le Seigneur pour l'œuvre de sa maman, de sa grand-mère et de sa mère. Premier niveau. Et c'est ce qu'on avait vu mardi. L'instruction instruit l'enfant de sa jeunesse et quand il sera grand, il s'en détournera pas. Et on voit là l'œuvre de sa grand-mère et de sa mère dans sa vie, qui ont bâti, qui ont posé un fondement de la foi chez ce jeune enfant qui est Timothée. Plus tard, il est intéressant de voir que Timothée, on ne parle pas de son père. Où est passé son papa? Donc là aussi, il y a un manque. Mais on voit que dans l'église, il va trouver un père. L'apôtre Paul va se substituer à son père, il va l'appeler mon fils dans la foi. Et cet enseignement qu'il a peut-être manqué de son père, il va trouver un père spirituel qui va lui donner cet enseignement-là. Donc il va l'accompagner, lui montrant par des actes, en ce qu'il a prêché, l'apôtre Paul, en ce qu'il a vécu lui-même dans sa chair, il va lui montrer le bon exemple à suivre. Mais on ne reste pas là, on voit encore l'association de l'Église. On lui rappelle qu'il a reçu son don par imposition des mains et que l'Église est associée à ça. Donc nous voyons que chacun à son niveau, chacun à son niveau, Dieu leur permet, Dieu donne à investir. Dieu nous permet d'investir dans la vie de ce jeune frère qui est Timothée. Et maintenant, Timothée est arrivé à cette maturité. Non pas seulement il y a la maman, sa grand-mère, nous avons dit l'apôtre Paul, l'Église, et nous voyons l'œuvre même de Dieu dans la vie de Timothée qui le qualifie, parce que c'est le don de Dieu qui le qualifie pour cette tâche à laquelle il est appelé. Et Cette mention du Saint-Esprit, les répétitions qui sont faites dans le texte doivent nous permettre de comprendre aussi que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, que nous dépendons de Dieu pour l'œuvre, pour son œuvre. Que ce soit la grand-mère et la mère de Timothée, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'Église, toutes ces personnes-là dépendaient d'une personne, la personne du Saint-Esprit. Maintenant qu'on a vu tout cela, je vous propose maintenant de voir quelles sont les caractéristiques, quelles sont les qualités essentielles d'un serviteur loyal. J'aime bien plus ce mot-là, la loyauté. Quelqu'un qui va rester fidèle, constant dans ce qu'il a reçu. Et le verset 6, verset 7, nous plonge tout de suite dans cette exhortation à Timothée. Nous l'avons chanté ce matin. Ravive Seigneur comme une prière, ravive l'amour, ravive cette flamme. Et c'est ce que l'apôtre lui dit. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Une caractéristique essentiel. Il me semble que le texte nous dévoile chez celui qui reçoit ce dépôt, c'est le zèle. Un bon dépositaire, c'est quelqu'un de zélé. Ravive le don de Dieu, ravive, entretien. Timothée l'a invité à entretenir le feu de Dieu, à entretenir cette flamme que Dieu a placée en lui. Et c'est vrai que lorsque nous convertissons, nous avons cette flamme. On va aller partout évangéliser et c'est beaucoup le rapport. Après, le temps fait que, bon ben voilà, cette flamme-là, elle a tendance à s'amenuiser. Mais là, il est invité à entretenir cette flamme, ce don que Dieu a mis en lui, ce zèle que Dieu a mis en lui. Dieu lui donne un zèle pour la guidance de l'Église. Et ce fardeau que Dieu lui met doit lui procurer un enthousiasme, une motivation. C'est une source de motivation pour qu'il fasse sa tâche. Et ça, il doit l'entretenir. Et ça, en dépit des oppositions présentes dans sa société, parce que prêcher Christ au sein de l'Empire romain, ce n'est pas forcément la chose la plus adéquate à faire, parce qu'on risquait sa vie. Mais aussi, on voit dans les versets 15 et suivants, lorsque Paul parle des frères, il y a des frères qui encouragent, mais aussi une sorte d'opposition des frères qui sont là et qui peuvent nous faire chuter par leur comportement. Et on sait que Timothée, lui, il est d'un caractère timide et réservé. Mais nous savons que malgré cela, Dieu n'a pas regardé à ce caractère timide. Dieu l'a, lui, qualifié. C'est Dieu qui donne ses appels. Dieu choisit, il a fait un choix. Le choix de Dieu s'est porté sur ce jeune Timothée. Malgré sa timidité, malgré ses réserves, malgré un état de santé particulier. Mais on voit que Dieu lui-même pourvoit aux besoins de son serviteur. Dieu a pourvu aux besoins même de son serviteur. C'est Dieu qui a placé en lui tout ce dont il a besoin par son esprit pour que Timothée puisse mener à bien cette tâche. Il lui a placé force, courage, amour, sagesse. Dieu l'a équipé, on va dire. C'est Dieu qui a équipé notre jeune Timothée pour cette responsabilité. Alors ce zèle va se manifester par la passion pour l'œuvre, cette préoccupation de voir l'œuvre de Dieu grandir, de s'occuper des différentes églises d'Éphèse. Cette passion, c'est l'amour, l'intérêt qu'il a, qu'il va porter pour les choses d'en haut, ces réalités qui sont d'en haut, selon Colossiens 3, verset 1 et suivant. La Timothée, pour lui, c'est de faire grandir cette communauté, c'est d'œuvrer sous la direction de l'Église, pour que cette Église grandisse d'une manière uniforme, d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Il va devoir contribuer à la croissance, s'investir pour que chaque croyant puisse recevoir la nourriture adéquate pour que lui-même puisse grandir. Mais ce zèle aussi, et c'est ce que l'apôtre lui demande, que ce zèle soit capable aussi de s'indigner face aux enseignements contraires à la volonté de Dieu. Le zèle de Dieu est capable de s'indigner, le zèle que Dieu donne à son serviteur est capable de s'indigner face aux faux enseignements, à tout ce qui n'est pas conforme à l'enseignement que Christ a donné, tout ce qui n'est pas conforme à l'enseignement des saintes Écritures. Garde la saine doctrine. Le zèle ne fait pas de conformisme. Bien sûr, on parle de l'amour, mais il ne se conforme pas à la pensée ambiante. Ce zèle-là, il est là pour garder. Garder ce que l'enseignement qui a été reçu. Et on a cet exemple de Jésus. Je veux dire, mais le premier exemple, c'est Jésus lui-même dans le temple. Je dis, le zèle, ensuite les disciples ont compris, mais le zèle de ta maison me consume. Mais Jésus, face à ces marchands qui ont fait de la maison de Dieu un repère de voleurs, va se faire un fouet et bousculer tout cela. Parce que la maison de Dieu, elle est une maison d'abord une maison de prière. Un lieu de justice où devait se pratiquer la justice. Alors comment pouvait-il regarder ce lieu devenir un repère de voleurs? Où la fraude, le mensonge, l'injustice s'accumulent. Et c'est ce même zèle que le serviteur de Dieu, dans la maison de Dieu, maintenant à notre époque, nous sommes aussi appelés à avoir, à être nourris. Qu'en est-il de ce désir des choses d'en haut? Est-ce que nous sommes animés? Voilà. De ce désir de voir la saine doctrine être gardée, d'être diffusée. Est-ce que nous désirons ardemment vraiment l'œuvre, que l'œuvre de Dieu grandisse? Quelle est la place, quelque part, du royaume de Dieu dans nos préoccupations? L'avancement du règne de Dieu dans notre cœur, mais aussi dans l'Église, mais dans le monde qui nous entoure, doit nous pousser à ce zèle. Pousser à ce zèle. À garder la saine doctrine et à vivre d'elle. Que le Seigneur nous aide à raviver, ou sinon à entretenir, hein, comme on dit, ce feu. Chacun a reçu une disposition, que ce soit pour les enfants, que ce soit à la louange, peu importe le service, peu importe ce que Dieu a mis sur le cœur, peu importe le don que Dieu nous a donné. Il nous demande de le faire avec un zèle, mais un zèle qui est saint. Un zèle qui est conforme à sa volonté. Le deuxième élément essentiel de ce dépositaire qu'on voit, c'est le courage. Verset 8 à verset 11. À plusieurs reprises, il est dit à Timothée, n'aie pas honte. N'aie pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. N'aie pas honte, l'apôtre lui dit, n'aie pas honte non plus de mes liens. Mais au contraire, souffre. Souffre avec nous pour cette parole. Le motif qui a conduit l'apôtre à l'emprisonnement, c'est annoncer un sauveur en croix. Encore aujourd'hui, c'est une folie pour ceux qui périssent. Comment annoncer un sauveur qui meurt? Comment peut-il sauver s'il est mort? C'est vrai qu'il dit qu'il est ressuscité, mais voilà. Comment Dieu peut-il mourir? Comment Dieu peut-il donner sa vie pour des êtres humains? C'est de la folie. C'est insensé. Mais Paul lui rappelle que contrairement aux apparences, contrairement à ce qu'on peut voir, le message de la croix, le visage de l'évangile, la croix de Jésus-Christ n'est pas une défaite. Mais au contraire, elle est une victoire. Elle est une victoire. Cette croix a brisé la puissance de la mort qui retenait les hommes captifs. Christ est mort C'est vrai. Il n'est pas resté dans le tombeau. La mort ne pouvait pas le retenir parce que lui, il était juste. La mort ne pouvait pas le retenir parce que lui, il était juste. Il a vécu de son enfance jusqu'à son apogée, jusqu'à la croix, sans commettre de faute. Et aujourd'hui, c'est cette grâce que nous prêchons. Et c'est cette grâce qu'il envoie, il envoie ses disciples. Et à sa suite, il envoie l'Église annoncer qu'il sauve encore. Malgré on pourrait dire la folie de ce message. Malgré la folie de ce message, dire, mais, waouh, il nous appelle à sa croix. Dieu nous appelle à sa croix. Timothée doit annoncer, parce que Christ est mort, il a été proclamé Seigneur. Et plus que jamais, Timothée doit proclamer dans l'Empire que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le fils d'un charpentier, il est Seigneur. Ouais. L'empereur, le message c'est ça. Empereur, il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Et ce message-là est là pour, en entendant cela, dire à l'empereur qui n'est pas forcément le plus grand, nous expose à la mort. Mais là, ce message-là ne souffre pas de résistance. C'est la vérité. Christ est Seigneur. Et c'est cela que nous devons annoncer. Et pour nous aujourd'hui, c'est aussi un défi. Ce défi-là nous concerne aussi, d'annoncer que Christ est Seigneur. Nous devons, bien sûr, nous dire respecter les autorités. Elles ont été instituées par lui, en fait. Tout pouvoir a été donné par Dieu. C'est Dieu qui donne les autorités. Et je vous invite à aller regarder les différentes vidéos que le pasteur a postées concernant ce thème de l'autorité. L'autorité humaine, elle vient de Dieu. Mais nous croyons que celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit. Celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit. Et de fait, les apôtres, il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous avons à nous soumettre aux autorités. Mais selon la pensée de Dieu. Et à diverses époques, nous voyons que la tentation des gouvernants et des gouvernements, c'est de se prendre pour Dieu, de vouloir être Dieu. L'État-providence, l'État qui veut se mettre au-dessus de Dieu. Mais nous réaffirmons cette position de la Bible. Celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit. Et que toute autorité est donnée par Dieu. Que la manifestation soit bonne ou mauvaise sur cette terre. Nous regardons l'histoire. Nebuchadnezzar, son autorité lui vient de Dieu. Et pourtant, Nebuchadnezzar, avec l'armée des Chaldéens, a mis à sac Israël. Ce gouvernement-là avait le pouvoir de Dieu pour un jugement de Dieu sur son peuple. Waouh! Alors, nous croyons que ce Dieu-là qui gouverne le temps et l'histoire, temps et circonstances, est au-dessus de toutes choses. Et qu'il nomme, qu'il met des hommes et des femmes à certains postes. Mais voilà, Dieu, lui, nous réaffirmons que Dieu lui reste au contrôle. Mais nous fermons cette parenthèse. Et nous voyons que, en tout cas, le courage que doit faire ce dépositaire, c'est un courage pour annoncer la parole, l'évangile de Jésus-Christ, prêcher l'évangile, même si cela s'accompagne de souffrance, même si cela s'accompagne d'hostilité de ceux, comme je disais, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. N'aie pas peur des souffrances. Le courage que doit animer Timothée, lui, est soutenu par deux vérités. La première, c'est la certitude de son salut. Christ l'a sauvé, Christ nous a sauvés. Et la seconde, c'est d'être assuré de la puissance de son de son rédempteur. Et à l'exemple de la foi, quand Paul parle de lui, on voit que sa foi lui-même, propre à Paul, est soutenue par ces deux vérités. Maintenant, gage à Timothée de s'approprier ces deux vérités. Christ a sauvé, le salut, il ne peut pas se perdre. Mais la puissance du Rédempteur est celui qui est capable de le garder. L'Esprit est le gage de ce salut. L'Esprit aussi est celui qui donne et qui est capable lui-même de garder Timothée à l'heure la plus sombre. Nous disons souvent que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons cette fois plus que le même esprit. Nous chantons parfois ce chant. Plus que le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Et nous voyons que c'est devant la mort, parfois, oh, on a connu des personnes, certaines personnes, devant cette heure sombre, vous remettre en cause que est-ce que j'ai l'esprit, est-ce que je serai ressuscité. On a vu la peur de partir. Et là, on voit qu'un apôtre serein. La mort pour lui, ouais, c'est un gain, quoi. La mort pour lui, c'est un gain. Mais en tout cas, sa préoccupation première, c'est de donner des instructions pour que l'Église elle reste pérenne dans la saine doctrine. Lui dira, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Lui, il s'en va, il se dit, il s'en va pour la gloire. Devant la mort, il s'en va pour la gloire. Nous montrant ainsi à quel degré de courage. Parce que les apôtres ont suivi aussi la voie du maître. Ils n'ont pas fait plus que le maître là. Ils suivent l'exemple de Jésus qui a donné sa vie. Et parfois, à cela que nous devons aspirer. Peut-être pas dans le sens où nous allons être tués. Mais comment j'investis ma vie? Ce courage d'investir ma vie. Quand les choses semblent contraires, quel courage d'investir ma vie dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur puisse nous donner du courage pour qu'on puisse remonter nos manches. Remonter nos manches dans l'œuvre de Dieu. Enfin, celui qui est un bon dépositaire, il est un homme fidèle. C'est un homme, une femme fidèle. Et l'apôtre va lui rappeler ça dans les versets que nous avons lus, versets 13 à 14. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ le modèle. Il y a un modèle qui a été donné. Il y a un modèle qui a été laissé, transmis par Christ dans les Saintes Écritures et que les apôtres à sa suite vont reprendre. Et c'est pour ça qu'on voit que l'Église, elle croit sur le fondement des apôtres, sur l'enseignement apostolique que les apôtres ont laissé. Timothée, lui, va devoir calquer lui son enseignement dessus, en gardant la foi et l'amour. Il ne va pas faire un copier-coller de ce que Paul a dit. Mais son enseignement propre, ce qu'il va voir dans les Écritures, les cas qu'il va devoir traiter en direct, il va devoir puiser dans la foi, puiser dans l'amour pour pouvoir mener à bien sa tâche. L'enseignement a une valeur, cette valeur inestimable. Et Paul lui dit que c'est en restant soumis à l'Esprit de Dieu, en ayant cette intimité avec l'Esprit de Dieu, par cette union avec Christ, qu'il va pouvoir rester fidèle à la saine doctrine. Le livre de Timothée envoie les avertissements divers hein, pour les faux enseignants qui égarent les personnes et qui font des ravages, qui faisaient des ravages. Notre temps aussi, nous l'avons déjà dit ici, est aussi marqué par de faux enseignements. Prêcher un évangile frelaté, évangile de la prospérité, un évangile qui est déséquilibré, où le Christ n'est pas à sa place centrale. On voit les pressions extérieures, bien sûr, pour ceux qui veulent nous confirmer, et la pression intérieure aussi par ceux qui se sont conformés à ce siècle présent, qui sont là, et qui veulent nous faire dévier. Mais là, il est question de garder le modèle, de garder la saine doctrine. Et on voit que malheureusement, l'homme préfère, lui, au nom de la liberté, se livrer au mauvais penchant de son cœur, en fait. Il veut être son propre centre, il veut être sa propre référence. Et malheureusement, on voit le monde, notre société, partir en vrille. Les nouvelles que nous avons entendues, les jeunes qui sont morts, au nom de la liberté. Plus d'autorité, plus de Dieu, plus de... Voilà. Eh bien, plus d'autorité des enfants qui partent en vrille. Plus de Dieu. D'autres choses se sont substituées à Dieu. Et amènent ce monde dans un état délétère. Mais nous devons, nous rappelle ce texte, nous devons à notre tour rester fidèles à ce que nous avons entendu, ce que nous avons, ce qui nous est enseigné dans les saintes écritures. Demeurons fidèles. La fidélité à cette sainte doctrine, c'est elle qui est capable. C'est elle qui est capable de donner le salut. Ce qui est en jeu dans la fidélité aux saintes écritures, c'est la vie éternelle. Donc nous voyons l'importance de garder cette sainte doctrine, pardon. Donc nous avons vu ce matin, je vais m'arrêter là, que les qualités essentielles d'un bon servant, serviteur ou d'une bonne servante hein, de Dieu. On a vu trois points. On a vu son zèle. On a vu Qu'est-ce qu'on a vu? Son zèle, son courage et sa fidélité aux saintes écritures. Christ nous a donné un exemple de zèle, de courage et de fidélité. La foi de Christ, la foi authentique, est faite, comme Dieu nous donne, elle est faite de zèle, elle est faite de courage, elle est faite de fidélité. Que le Seigneur nous aide dans son œuvre, au fait, à rester zélé. Que le Seigneur nous aide à rester courageux. Ce n'est pas un courage insensé. Ce n'est pas un courage, je veux dire, on est des. Voilà, on fait n'importe quoi. Non. C'est un courage qui est porté lui-même par la parole et par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous aide à être des femmes et des hommes fidèles, fidèles dans la transmission de la saine parole qui nous a été confiée. À chacun, Dieu a confié une tâche, une mission particulière qu'il a donnée selon son esprit, c'est l'esprit qui donne. Mais en tout cas, c'est l'esprit de Dieu qui nous fortifie et qui nous rend lui-même capable, qui nous rend lui-même capable d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a lui-même préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que le Seigneur nous aide. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour tes conseils. Aide-nous encore, s'il te plaît, à méditer sur ta parole et à comprendre comment tu veux que nous nous comportions dans ta maison. Et quelles sont les habitudes de cœur que nous devons avoir face à ce bien, ta parole, la parole de Dieu, celle qui est capable de donner la vie, c'est ta puissance, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors nous voulons être trouvés fidèles, s'il te plaît, dans la vie que nous menons, dans cet évangile, mais aussi dans être fidèles. Dans ce que nous annonçons, dans ce que nous prêchons dans nos assemblées. Garde-nous, Seigneur, en toi, Seigneur Christ, garde-nous par ton esprit. Et que seule ta parole, s'il te plaît, fasse autorité. Seule ta parole éternelle, par la puissance de ton esprit, fasse autorité dans la vie de tout un chacun. Afin que nous puissions mener une vie droite et conforme selon ta volonté et ta volonté seule. À la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Fils, à la gloire de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. Je vais laisser la place.